France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Le sport et la politique ont parti mêlés depuis toujours. Entre les cités grecques, déjà, les Jeux étaient affaires de prestige, d'influence et d'argent. Aujourd'hui, l'accélération du monde place le sport au centre des enjeux géopolitiques et l'Europe n'en est plus maître. Les passions sont devenues planétaires, les investissements et les retombées sont colossaux et seul un petit nombre de pays ont les moyens de se faire concurrence. Le sport business est en pleine expansion. Toutes les disciplines, ou presque, sont concernées. Le foot, bien sûr, le basket, mais aussi, c'est moins connu en France, le cricket. Et c'est ainsi que se créent les légendes contemporaines, avec leur cortège de stars, d'agents, de transferts, de droits dérivés, de scandales parfois, la multiplication des compétitions d'un bout à l'autre de la planète et les adeptes par centaines de millions auxquels la technologie permet désormais un accès quasi permanent. C'est en Europe que le sport moderne s'est développé et organisé au siècle dernier. C'est maintenant à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, de rivaliser pour boucler les contrats les plus prestigieux avec leurs prestataires occidentaux au fi des préoccupations en matière de droits humains et d'environnement. Le soft power est aussi du sport washing. Quelle influence alors sur l'évolution des compétitions et sur la féminisation tardive mais réelle de quelques sports populaires. La financiarisation s'accélère aux États-Unis et en Europe. Des investisseurs privés comme des fonds à large spectre misent en particulier sur le football. Donald Trump prépare la prochaine Coupe du Monde à domicile. L'Afrique s'organise. La Russie, à l'écart depuis l'invasion de l'Ukraine, essaie de proposer au Sud dit global un autre système. La Chine reste à la traîne. On va tout comprendre de la géopolitique du sport ce matin. Grâce à vous, Carole Gomez, vous travaillez à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Lucas Aubin, directeur de recherche en charge du programme sport et géopolitique à l'IRIS. Pierre Rondeau, professeur d'économie à la sport, c'est pourquoi c'est en anglais, à la Sport Management School, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, et Raphaël Lemago-Ariec, qui est docteur en géopolitique. Lucas, je commence avec vous. La flamme olympique est partie, il y a une quinzaine de jours, je crois, depuis Olympie, pour annoncer les Jeux d'hiver qui auront lieu à Milan-Cortina en février prochain. Mais en fait, on se rend bien compte que l'Europe n'est plus nécessairement au centre de cette fresque géopolitique que vous allez nous aider à brosser. Donc il n'y a plus de monopole en fait des Européens.
Non, complètement. La géopolitique du sport a muté, enfin mute actuellement sous nos yeux, de façon très rapide d'ailleurs. Et si on fait un petit retour en arrière, vous l'avez évoqué au tout début de votre propos, effectivement le sport moderne tel qu'on le connaît, il est principalement né en Grande-Bretagne. Et c'est un phénomène social qui est assez inédit dans l'histoire de l'humanité, puisque finalement, là on est à peu près 150 ans, un peu plus, 170 ans plus tard, et aujourd'hui il a véritablement conquis la planète, et on dit effectivement que le mouvement sportif mondial, ça représenterait d'un point de vue économique 1 à 2% du PIB global de la planète, donc c'est évidemment énorme. Les méga compétitions sportives, elles, sont regardées, donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, ou les Coupes du Monde de foot sont regardées par la moitié de l'humanité. C'est évidemment énorme, 4 à 5 milliards de téléspectateurs. Il n'y a tout simplement pas d'équivalent, bien entendu. Et par contre, la différence par rapport à avant, c'est qu'effectivement, tout au long du XXe siècle, c'était principalement l'Occident qui disposait de la majorité des compétitions sportives où jouaient les principaux et les meilleurs joueurs de la planète, etc. Depuis la fin de la guerre froide, depuis 1991, en fait, le monde du sport est devenu vraiment multipolaire, hein, comme le monde, d'ailleurs. Et ça s'est notamment observé au JO 2008, à Pékin, où là on a pu voir en fait un vrai shift, un vrai changement, c'est-à-dire que ça s'est passé donc à Pékin en Chine bien sûr, mais aussi et peut-être surtout, c'est la Chine qui a remporté cette édition olympique. Et en fait, ça montrait que, d'une part, l'organisation n'appartenait plus uniquement aux Occidentaux, mais bien sûr, on le savait déjà, mais les résultats aussi, eux, ont commencé à changer. Et c'était la première fois, je crois, depuis 72 ans, qu'un autre pays que les États-Unis ou l'URSS/la Russie n'avait pas remporté, justement, une édition olympique d'été. Donc, c'est véritablement révolutionnaire.
Néanmoins, les règles et les plus grosses organisations internationales ou transnationales, ça reste occidental.
Oui, c'est ça, c'est un des paradoxes, c'est qu'en fait, on peut tout à fait dire que, dans une certaine mesure, le sport se désoccidentalise, dans le sens où il n'appartient plus uniquement aux pays occidentaux et où, on va le voir, les pays du Golfe, les pays émergents, ce qu'on appelait les BRICS, aujourd'hui qui ont émergé pour beaucoup, évidemment, aujourd'hui ont des compétitions. Mais par contre, le sport en tant que tel, lui, ses règles, restent des règles qui ont été édictées par les pays occidentaux il y a des décennies de ça. Et la plupart des centres qui contrôlent le sport se situent aujourd'hui encore en Europe, notamment, évidemment, beaucoup en Suisse, hein, coucou Carole à distance, mais également en France, également en Grande-Bretagne, etc. Donc, il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'on assiste à une désoccidentalisation de fait, mais dans l'organisation, c'est une désoccidentalisation du sport qui reste, en fait, occidentale sur son organisation.
Raphaël de Magoariès, ce qui est évidemment spectaculaire, c'est la péninsule arabique, parce que là, on a aujourd'hui les trois acteurs les plus riches de cette géopolitique sportive en mouvement. L'Arabie saoudite, pour commencer par elle, je crois qu'au cours des 10 dernières années, les sommes investies représenteraient plus de 51 milliards de dollars.
C'est possible, parfaitement. Ça oui, c'est tout à fait possible, parce que justement, on a parlé de financiarisation et de centres, et l'Arabie Saoudite, elle souhaite complètement changer les centralités, en fait, du sport mondial, afin de regagner son rôle de puissance à la fois régionale, notamment par rapport au Qatar, et aussi par rapport à Abu Dhabi. En fait, l'Arabie Saoudite souhaite parler les codes qu'ont utilisé le Qatar et les Émirats arabes unis avant elle. Et pour gagner en centralité à l'échelle régionale, elle va faire usage du sport. Et étant donné qu'elle est en retard, elle va devoir utiliser encore plus ses finances issues du pétrole pour justement changer ses centralités et frapper plus fort que le Qatar. En fait, le Qatar, c'est vraiment l'idéal type de la région, on pourrait dire ça.
C'est le Qatar qui a commencé en premier à investir
avec Dubaï. En fait, l'Arabie Saoudite, c'est le mélange entre Dubaï et le Qatar. Parce que l'Arabie Saoudite n'a pas du tout la même démographie que le Qatar, donc elle doit penser en termes de finances et de gains sur le long terme. Et ça, c'est la grande différence. Et l'Arabie Saoudite, en fait, souhaite créer un marché autour du sport. Il faut bien voir qu'en Arabie Saoudite, étant donné qu'il y avait le wahhabisme qui était très présent jusqu'en...
Donc l'interprétation religieuse du Coran.
Voilà, l'interprétation rigoriste du Coran. Il faut bien voir que dès les années 1930, au moment de la création du royaume saoudien, le sport pose un souci parce que c'est une influence étrangère. Et au vu de cette interprétation rigoriste, en fait, le sport est vu comme une innovation blâmable. Et donc, en fait, en Arabie Saoudite, il y a toujours eu, contrairement au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, il y a toujours eu cette question de devoir composer avec l'influence religieuse.
Mais ça, MBS, Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier, depuis 12 ans maintenant, avec de plus en plus de pouvoir, et son gigantesque projet qui s'appelle Neom, a accéléré non seulement le changement des mœurs jusqu'à un certain point, mais aussi les investissements, et ce pour une population, je voyais les chiffres, 63% de la population saoudienne a moins de 30 ans. Donc ça veut dire qu'il faut aussi les divertir, les occuper, les inciter à faire du sport. Dans un pays où il y a beaucoup de diabète et beaucoup, où l'obésité menace en particulier la jeunesse. Mais c'est pas si simple, hein. Je crois que ce projet d'organiser les JO d'hiver en 2029 dans les montagnes à la frontière avec la Jordanie, il n'est même pas sûr qu'ils y parviennent.
Non, c'est une politique d'annonce. Et surtout, cette politique d'annonce a été faite un mois auparavant, avant le début de la Coupe du Monde 2022. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que ça se fasse un mois avant la Coupe du Monde 2022. C'était pour faire de l'ombre au Qatar et pour montrer que l'Arabie Saoudite existe désormais sur la scène sportive internationale et qu'il faut réellement compter avec elle. Mais cette politique d'annonce, on ne sait pas si elle va déboucher sur quelque chose de réellement sérieux.
Mais cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, on s'en souvient tous, c'est aussi le moment où le Qatar, qui avait lancé Al Jazeera plusieurs années auparavant, s'est organisé, si ma mémoire est bonne, pour diffuser les images de la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, oui. Mais malgré une histoire de droit, etc. C'est à ce moment-là que ça s'est appelé Be In Sport, je crois.
Oui,
Be
oui.
Out.
Oui. Be out.
Be out, oui.
En fait, il y avait toute une politique de casser l'influence du Qatar dans le sport et notamment de casser les canaux de financement du Qatar vers la FIFA ou vers différentes organisations internationales, sportives internationales, ce qui fait l'influence du Qatar aujourd'hui dans le sport mondial.
Et ça a marché jusqu'à un certain point. Ou est-ce que finalement tous ces financements se partent en bouquet, en quelque sorte, en fonction des opportunités, soit au Qatar, soit dans les Émirats, soit en Arabie Saoudite.
En fait, cela n'a pas fonctionné parce que le Qatar a les reins très solides d'un point de vue financier avec son assise gazière. Donc l'Arabie Saoudite a essayé de casser l'élan qatarien, mais le Qatar est très solide et il le montre encore aujourd'hui.
Pierre Rondeau, le Qatar, évidemment, c'est le foot et le PSG. Voilà, même moi,
comme quoi ils ont réussi.
J'ai à peu près maîtrisé ça. Mais plus sérieusement, c'est dans le football qu'on a vu cette irruption massive de l'argent.
Oui.
Depuis combien de temps
Même avant le Qatar avec le Paris Saint-Germain en 2011, on avait eu les Émirats Arabes Unis avec Manchester City en 2008. Donc on sait depuis très longtemps qu'il y a des velléités de s'approprier la popularité du football, qui est le sport numéro un sur Terre. C'est la Coupe du Monde et vue par plusieurs. Ça a été dit par près de la moitié de la population internationale. Les clubs de football européens sont immensément connus à travers le monde. Et on sait très bien que voilà, détenir un grand club de football, au-delà d'une nation, au-delà d'être une nation sportive et une grande nation sportive en termes footballistiques, un club de foot vous procure une aura, vous procure une réputation, une notoriété sans commune mesure. Et c'était le projet, c'est depuis toujours le projet à la fois des Émirats Arabes Unis avec la performance de Manchester City, le projet des Qatariens avec le Paris Saint-Germain, et aujourd'hui l'Arabie Saoudite qui parie à son tour sur un club de foot avec Newcastle en Angleterre. Donc effectivement, voilà, on a depuis une quinzaine d'années ces velléités internationales de s'approprier la notoriété, la popularité du football, donc de faire du soft power. Et ces acquisitions financières, ces investissements financiers colossaux à dépenser sans compter pour d'abord un objectif de performance, de résultat, avant même qu'on ait un objectif de rentabilité économique, a fait que, de fait, la croissance économique du football a considérablement augmenté. À titre de comparaison, avant les années 2010, alors certes, il y avait beaucoup d'argent dans le football, mais il y avait aussi une très grosse dette, et les clubs connaissaient en moyenne un taux de croissance annuel moyen compris entre 2 et 3%. Entre les années 90 et 2000. Sitôt arrivés les fonds émiratis, les fonds qatariens et aujourd'hui les fonds saoudiens, vous avez une explosion de la croissance économique du football par un effet de capillarité, par un effet de ruissellement. On met des centaines de millions d'euros dans les transferts, dans les salaires, dans les contrats de sponsoring, dans les partenariats financiers. Bah, toute l'économie va en profiter. De fait, cette économie en pleine croissance va attirer d'autres acteurs, et vous l'avez rappelé, les fonds d'investissement notamment.
Oui, parce que ça devient très spéculatif.
Exactement, vous avez vraiment une forme de financiarisation du football qui s'est accélérée dans les années 2010, avec plus de détails et plus de précisions. Ça a été renforcé par la mise en place d'un fair play financier qui, contrairement à ce que son nom indiquerait, le fair play financier dans l'Europe du football a permis de forger une forme de pragmatisme économique et d'objectif de rentabilité avant un objectif de performance.
Donc le fair play, c'est pas le sujet.
Alors, la logique, c'est vrai que sémantiquement,
on peut se tromper parce qu'on entend fair play financier, on s'imagine que ça va être contrôler ses finances, faire attention, faire preuve de mansuétude. Concrètement, pour que nos éditeurs comprennent, le fair play financier, c'est que vous n'avez pas le droit de dépenser plus que ce que vous avez gagné. Or, comme maintenant, dorénavant, enfin en tout cas depuis la mise en place du fair play financier, c'est dépenser ce que vous gagnez, l'objectif va être de gagner de l'argent.
Mais vous ne nous avez pas encore parlé, ils sont un tout petit peu, ils se sont fait plus discrets, mais ce sont quand même les oligarques russes qui, avant même
effectivement.
Les puissances arabes, ont mis beaucoup d'argent, et singulièrement
à la seule en Angleterre. La seule différence, si je veux vraiment faire une nomenclature de types d'investisseurs dans les clubs de football, on a en tête, notamment parmi les oligarques russes, on a quelqu'un comme Abramovich à Chelsea, qu'on va considérer comme étant un sugar daddy. Les sugar daddies, c'est les gens qui vont, enfin, c'est ces milliardaires qui viennent non pas dans un but de soft power, non pas dans un but de rentabilité économique, mais qui viennent dans un but d'amusement, entre guillemets. Et quelqu'un comme Roman Abramovich à Chelsea est venu en tant que milliardaire avec beaucoup de guillemets, bien évidemment, pour s'amuser dans le football anglais,
britannique. Je ne sais pas où il s'amuse maintenant, mais on n'entend plus parler.
Depuis le conflit russo-ukrainien, il s'est quelque peu retiré. Mais dans les années 2000, un club comme Chelsea, qui jusqu'ici n'était pas un très grand club britannique, a dépensé sans compter, pour le plaisir et la satisfaction de son propriétaire, un oligarque russe.
Alors, disons les mots, il y a aussi évidemment des affaires de corruption. C'est assez, courant,
oui.
paraît-il. Et alors, j'ai vu, il y a plusieurs jours déjà, une affaire, me semble-t-il, d'un type nouveau. Le FC Barcelone, qui est financé par un fonds de crypto-monnaie, domicilié dans les îles Samoa. Ne me demandez pas où ça se situe, mais enfin, on comprend bien que c'est un paradis fiscal. Donc, on voit aussi les crypto-monnaies, c'est-à-dire un univers opaque par définition, qui est à l'abri de tout contrôle.
Et d'aucuns pourraient vous répondre qu'il s'agirait non pas de fraude, mais d'optimisation fiscale qui restera légale à ce niveau-là. Vous avez raison, bien sûr, on peut aussi se poser des questions sur ces nouveaux acteurs qui émergent dans le sponsoring sportif. Mais beaucoup plus près que Barcelone, on a aussi le Paris Saint-Germain et le PSG qui est sponsorisé par une plateforme de crypto-monnaie, dont je tairai le nom, mais en tout cas qui est sponsorisé, qui a parmi ses partenaires et ses sponsors une plateforme de crypto-monnaie. Oui, la crypto-monnaie... Parce qu'effectivement, on draine aussi beaucoup d'argent. Je n'ai pas le chiffre en tête précis du
capitalisation. Et puis c'est très générationnel aussi.
Et alors, évidemment, en plus, comme on est sur un domaine qui va attirer beaucoup de jeunes, et on a cette mode, entre guillemets, de la crypto-monnaie qui va drainer une génération nouvelle, attirée par la perspective, le rêve, le fantasme de pouvoir très rapidement gagner de l'argent. Et oui, on va associer, encore une fois, comme pour une question de soft power entre des nations et des clubs, on va associer des marques, des modèles qui cherchent à se populariser avec des clubs et des équipes qui représentent cette popularité.
Carole Gomez, vous êtes donc à Lausanne, vous travaillez à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Expliquez-nous comment les États-Unis, qui ont donc obtenu la prochaine Coupe du Monde de foot, donc c'est l'année prochaine. Alors les États-Unis, le Canada et le Mexique ensemble. Mais Donald Trump, qui a joué au foot, entre guillemets, avec Ronaldo dans le bureau ovale au moment de la visite du prince héritier d'Arabie Saoudite, Donald Trump, évidemment, investit énormément de prestige, de rayonnement, dans l'idée que c'est lui qui a obtenu cette Coupe du Monde lors de son premier mandat et qui va donc présider aux différents matchs qui auront lieu sur le sol américain. Et on voit qu'avec M. Infantino, qui est donc le patron tout-puissant, si j'ai bien compris, de la FIFA, ces deux-là s'entendent en fait dans un jeu de pouvoir qui bénéficie autant à l'un qu'à l'autre.
Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole. Peut-être pour revenir sur ce qui a été aussi dit d'un mot par Raphaël Maguariec sur l'Arabie Saoudite et qui renforce aussi la question de l'image. N'oublions pas de rappeler que, alors qu'un grand contrat, un grand partenariat de 12 ans avait été donné, a été conclu entre le CIO et l'Arabie Saoudite pour organiser les premiers jeux de l'e-sport, à la surprise un peu générale, il y a quelques semaines, Ce partenariat a été annulé et le CIO a renoncé à organiser ces Jeux en Arabie Saoudite. Donc, il montre aussi à quel point il peut y avoir des succès et des défauts. Pour revenir sur la question que vous posiez sur
attendez, qu'on comprenne. Il peut y avoir des succès et des défauts. Ça veut dire quoi? Que ce sont des négociations?
Que ce sont des négociations et que c'était une volonté de l'Arabie Saoudite d'investir sur un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de domaines, sur un certain nombre de compétitions. Mm-hmm. Et que là, force est de constater que c'est quelque chose qui n'aura finalement pas lieu. Les premiers Jeux étaient censés être organisés en 2027. Et finalement, ça a été reporté sine die, sans que l'on sache exactement si ces premiers Jeux de l'e-sport pourront avoir lieu, en sachant que l'Arabie Saoudite est par ailleurs une place importante du e-sport dans le monde.
Oui, parce que MBS adore les jeux vidéo. Mais l'e-sport, on est encore dans une autre dimension. Si on reste pour le moment au sport traditionnel et d'abord à cette prochaine Coupe du Monde de foot, donc aux États-Unis, Canada, Mexique, l'année prochaine, comment analyser précisément les rapports de force entre le président des États-Unis et le président de la FIFA ?
Ben, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir à quel point il y a eu une mise en scène, y compris dans le bureau ovale, hein, de cette amitié, de cette relation entre les deux. Trop souvent, à mon sens, certains commentateurs et commentatrices ont considéré qu'il s'agissait d'une bromance, mais qui tend à dépolitiser la relation en la romantisant, en obscurcissant les rapports de pouvoir et les mécaniques politiques qu'il y a derrière, où chacun de ces individus, à la fois à la tête en tant qu'individu, mais aussi à la tête des organisations, joue un rôle, cherche à obtenir de l'autre des avantages, une notoriété, une audience auquel il n'aurait pas eu accès. Et donc, il faut, à mon sens, véritablement regarder ces mises en scène comme une relation intéressée, parfaitement opportuniste et opportune de la part de ces deux acteurs. Et l'un et l'autre se rappellent à quel point leur lien est fort, puisque vous l'avez rappelé, cette Coupe du Monde organisée dans 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique, a été attribuée en 2018, donc sous le premier mandat de Donald Trump. Et donc il y a vraiment eu, dans cette campagne pour voir cette attribution, des coups de pression très forts de la part de Donald Trump sur un certain nombre de votants de la FIFA pour non pas désigner le Maroc comme pays hôte de cette nouvelle Coupe du Monde, mais bien cette triple candidature, et n'hésitant pas par ailleurs à menacer à l'époque Justin Trudeau, qui était Premier ministre du Canada, vouloir se tailler la part du lion sur cette compétition, ce qui est en réalité le cas.
Oui, d'autant qu'on sait à quel point Donald Trump voudrait annexer le Canada et en faire le 51e État américain. Il faut dire aussi que pour Donald Trump, c'est d'autant plus opportun, cette Coupe du Monde, qu'en 2026, ce sera le 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. Et en 2028, et le président américain s'en flatte aussi, il y aura les Jeux à Los Angeles.
Et paralympiques, exactement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, peut-être pour un peu nuancer ce qui a pu être dit très justement par Lucas Aubin au précédent, mais qui montre là que l'on va rentrer vraiment dans une période très états-unienne, avec, vous l'avez dit, la Coupe du Monde masculine de football en 2026, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles en 2028, Coupe du Monde de rugby masculine et féminine 2031-2033, et ne l'oublions pas, aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver, à Salt Lake City, en Utah, en 2034. Et donc, on va vraiment rentrer dans une période états-unienne avec une mise en avant de la politique états-unienne, évidemment, de sa diplomatie, et une véritable opportunité donnée à Donald Trump de mettre en scène son pays, ses réformes et sa vision du monde, et aussi sa vision des alliances. Et Lucas l'a mentionné, la question russe, entre autres, va être quelque chose d'extrêmement intéressant à analyser au cours de ces prochains grands événements sportifs.
Avant d'en venir à la question russe, on a déjà vu, il y a plusieurs jours maintenant, que l'Iran a boycotté le tirage au sort de la Coupe du Monde parce que les États-Unis refusent d'accorder des visas à certains membres de la délégation iranienne. Un mot encore, Carole, du basket, parce que le NBA, c'est aussi un gigantesque business, et pas seulement aux États-Unis. Enfin, il y a véritablement une audience fan de basket en Europe. Et là, le budget annuel de la NBA, c'est entre 11 et 13 milliards de dollars. Donc là aussi, on explose tous les compteurs, là.
Oui, alors pour le coup, je laisserai plutôt la parole à l'économiste de la bande, Pierre Rondeau, pour réagir sur le sujet, mais c'est effectivement, avec notre regard français, européen, on a tendance à oublier à quel point le basket est une industrie, est un sport considérable quand on parle de géopolitique du sport.
Pierre, précisément, le basket, alors on sait qu'il y a quelques Français très très grands.
Oui.
qui sont embauchés. C'est fascinant d'ailleurs l'espèce de, j'ose pas dire, de mise aux enchères de ces jeunes joueurs qui sont
le principe de la draft. Oui. C'est très 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 intéressant à observer lorsqu'on s'intéresse au sport et qu'on fait la distinction entre l'organisation des ligues européennes de type ouverte, presque dérégulée, et les ligues sportives nord-américaines qui sont fermées avec une forme de régulation dont la draft, en gros très rapidement, la draft, les équipes les moins bien classées sur une saison régulière sont prioritaires pour la venue des jeunes joueurs universitaires ou étrangers, ce qui permet de rééquilibrer en tout cas l'intensité sportive. Et effectivement, la France, presque d'un point de vue même géopolitique, la France, c'est le plus gros contingent de joueurs étrangers, hors États-Unis et Canada. On compte, je crois, une dizaine de Français, en tout cas, de joueurs français évoluant en NBA. Et effectivement, oui, vous l'avez rappelé, la NBA est en soi aussi à comparer, je dirais, avec ce qu'on a en Europe, la Ligue des Champions en Europe. Pour moi, les deux plus grandes compétitions de clubs au monde, tous sports confondus, c'est la Ligue des Champions en termes d'audience, hein, je parle en termes de renommée et notoriété. Vous avez la Ligue des Champions pour le football et la NBA pour le basket, où la NBA, effectivement, est même plus connue et plus réputée, plus regardée, plus populaire en dehors des frontières nord-américaines que directement sur le territoire nord-américain. Les Américains, par exemple, le sport roi qui, lui, draine 10 milliards de dollars de droits TV annuels, c'est pas la NBA, c'est pas le basket, c'est le foot US, la NFL. Ah. La NFL, c'est le sport roi, et sans compter, vous rajoutez à ça les sports universitaires et le championnat universitaire, la NCAA qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Les Américains sont très friands de sport, hein, le baseball, le foot US, le basket, le soccer, les championnats universitaires.
Oui, il y a un nationalisme.
Ah bien sûr, il y a une vraie ferveur. Ouais. Et même dans le côté culturel nord-américain, vous avez la ferveur pour les équipes universitaires, pour leur propre université, qui vont supporter, comme nous Français, on va supporter telle ou telle ville. Et à côté, vous avez ce qu'on appelle les franchises, de véritables modèles économiques, des entreprises à part entière, où elles vont pouvoir se déplacer, déménager, aller de ville en ville, attirer de nouveaux publics, changer de public. Il est beaucoup plus facile, côté américain, de pouvoir changer de supporterisme. Et donc, tout ça pour vous dire que oui, effectivement, la NBA, pour le cas français par exemple, a un intérêt ici, en tout cas, est un outil de soft power et de réputation internationale, de nation branding. Et c'est pas pour rien, par exemple, que la NBA, en tout cas les promoteurs de la NBA, ont des velléités de s'installer en Europe et de construire la NBA européenne, et notamment le Paris Saint-Germain, les Qataris encore eux, qui auraient le souhait de pouvoir construire le premier club parisien de basket dans la NBA européenne. Et à ça, autre sujet qui est lié, c'est la construction d'un nouveau stade en dehors de Paris, un nouveau stade pour le PSG qui associera à la fois une enceinte footballistique et une enceinte sportive pour le basket, si jamais on venait à créer le PSG basket et qui évoluerait en NBA européenne.
Lucas Aubin, vous avez beaucoup travaillé sur la Russie et vous continuez de le faire. On a vu, il y a maintenant une quinzaine de jours, que la Fédération internationale de judo a décidé de réintégrer la Russie avec hymne et drapeau, comme on dit, à l'occasion du grand slam d'Abu Dhabi qui a eu lieu donc fin novembre. Et ça, c'est la première fois, c'est la première brèche, en fait, dans l'exclusion de la Russie depuis l'invasion de l'annexion de la Crimée d'abord et l'invasion de l'Ukraine.
Alors c'est pas la première brèche. La première brèche, c'était vraiment le comité paralympique qui avait annoncé justement que pour les prochains Jeux paralympiques d'hiver, l'équipe russe serait réintégrée avec hymne et drapeau. Néanmoins, c'est la première fédération internationale de grande ampleur à prendre une décision similaire. Ce qui laisse penser effectivement que d'autres fédérations vont prendre le même chemin dans les semaines, voire dans les mois.
Oui, mais enfin là, c'est quand même directement contre le CIO. Enfin, c'est... contre le CIO, en l'occurrence.
C'est alors contre passe pas tout à fait. C'est-à-dire que la nouvelle présidente du CIO, Christy Coventry, a expliqué elle-même que elle souhaitait justement à terme essayer de réintégrer les Russes et les Bélarusses, à condition évidemment que la situation en Ukraine se stabilise ou en
oui,
tout
c'est
cas,
une grosse
évolue.
Condition quand même.
C'est quand même une grosse condition, bien sûr. Mais il faut ajouter à ça, et comme le disait finalement Carole Gomez également, il faut ajouter à ça le fait que Donald Trump, on le sait, souhaite plutôt, lui, le retour de ses athlètes pour les athlètes russes et bélarusses pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles.
Oui, et il a dit déjà pour la Coupe du Monde de foot, parce qu'en recevant Infantino il y a deux mois, je crois, dans le bureau Oval, il a dit, en montrant une photo de lui avec Poutine, il a dit, et voilà quelqu'un qui aimerait bien venir assister à la Coupe du Monde.
Tout à fait. Et d'ailleurs, et peut-être qu'il sera invité. Hein. C'est tout à fait possible qu'il soit invité d'honneur. On a pu le voir au JO de Pékin, par exemple, en 2022, où la Russie était déjà exclue. Et Vladimir Poutine était invité pour la cérémonie d'ouverture par Xi Jinping. Donc tout ça est tout à fait possible. Après.
Et donc c'est bien la traduction, encore une fois, de rapport de force ou de rapport d'alliance plus ou moins provisoire. En l'occurrence, entre la Russie et la Chine, par rapport à ce dernier exemple. Mais le judo, c'est très intéressant, parce que c'est un sport présidentiel. Comme dit le président de la Fédération internationale de judo, qui est proche à la fois de Vladimir Poutine, qui est ceinture noire, je crois, et du Hongrois Orban. Donc, tout ça est quand même très politique.
Ah bah, pour Vladimir Poutine, le judo, c'était disons, sa première utilisation du sport comme instrument politique et de soft power. Il faut se souvenir que fin 99, début 2000, quand il arrive au pouvoir en Russie, il fait campagne pour devenir président, parce qu'il est mis au pouvoir, mais il doit faire campagne par la suite, il y a des élections qui se tiennent. Et en fait, il donne notamment une interview au Figaro, Vladimir Poutine, dans laquelle il dit « Je suis sorti des bas-fonds de Leningrad grâce au sambo et au judo qui m'ont construit en tant qu'individu. » Le lendemain ou quelques jours plus tard, il est élu. Finalement, sa première action politique, c'est de faire venir son entraîneur historique, Anatoly Khachlin, entraîneur soviétique de sambo et de judo. Il le fait venir au Kremlin, voiture noire, vitre teintée, etc. On a une séquence où Vladimir Poutine a une larme qui coule, etc. Bref, c'est la télévision à la Vladimir Poutine. Et par la suite, effectivement, il a mis un point d'honneur à utiliser ce sport, le judo, comme instrument de puissance. Il s'est rapproché du Japon grâce à ça. Ça a été un de ses premiers déplacement présidentiel au début de sa première présidence. On sait qu'il est toujours très populaire là-bas, d'ailleurs, grâce à ça. Et évidemment, il a ensuite été l'invité d'honneur de la Fédération internationale de judo. Il a été banni au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, mais là, il fait un retour finalement en trombe dans cette fédération, et on peut tout à fait imaginer que, si vous voulez, c'est le début d'une cascade, et que de nombreuses autres fédérations...
C'est le cas de le dire, enfin, je ne sais pas si la cascade est un terme technique approprié, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, l'invasion, il y a maintenant presque 4 ans de l'Ukraine par la Russie, le Kremlin a essayé de proposer un système de rechange aux pays n'entrant pas, en quelque sorte, dans l'organisation occidentale
du
sport.
C'était un moment assez intéressant, un moment qui dure encore pour le moment, mais à voir si la Russie réintègre le sport traditionnel, disons, à court terme. Mais en tout cas, entre 2022 et 2025, on a pu observer que la Russie a cherché à organiser des contre-manifestations sportives. Donc c'était les Jeux du futur, c'était les Jeux des BRICS, donc des pays émergents. C'était les Jeux de l'amitié aussi, qui ne se sont finalement pas tenus en raison d'un manque de financement, finalement. Mais toutes ces compétitions alternatives, en fait, elles étaient directement puisées dans la besace de l'histoire soviétique. C'est assez intéressant. À l'époque, il faut se souvenir qu'au JO de Los Angeles de 1984, l'URSS avait décidé de boycotter la compétition, et elle avait créé, donc, en contrepartie, les Jeux de l'amitié, donc les mêmes Jeux de l'amitié que Vladimir Poutine devait faire se tenir à Moscou il y a un an maintenant. Et finalement, ces Jeux de l'amitié devaient faire venir tous les alliés de la Russie, donc les alliés communistes, pour montrer qu'une alternative au sport classique, disons, au sport moderne, jugé du coup capitaliste, bourgeois, etc., était possible. Alors évidemment, concurrencer le CIO, concurrencer la FIFA, aujourd'hui, c'est littéralement impensable et impossible. Donc on est plutôt sur des effets d'annonce, mais des effets d'annonce qui fonctionnent, puisqu'en fait, c'est relayé un peu partout dans le monde. En plus, Vladimir Poutine et son équipe grossissent les chiffres. Hein. Pour les Jeux du Futur, avait été annoncé qu'un milliard de téléspectateurs avaient regardé la compétition. Bon, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. A priori, non. Ou en tout cas, sauf si vous êtes spécialiste du sport, mais c'est une compétition qui a été bien sûr peu suivie. Par contre, c'est toujours intéressant de voir que Vladimir Poutine se situe en fait à mi-chemin entre le passé soviétique, le présent ultra-libéral, avec l'utilisation des oligarques, etc.
Soloviki, ouais.
Et voire même le passé tsariste aussi. En fait, il est dans un modèle un peu hybride et il essaie de s'en sortir comme il peut. Mais je crois que son objectif à terme, c'est quand même la réintégration de la Russie au monde sportif classique, hein, clairement, qui n'a pas d'équivalent.
Raphaël Lemago-Ariec, ce qui est très intéressant dans le cas des puissances arabes, c'est aussi l'accent, à l'écart des grandes compétitions dont vous nous avez parlé tout à l'heure, le retour ou plutôt la célébration de leur propre tradition, et en particulier les courses de chameaux. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu à Riyad d'abord des chameaux botoxés, parce qu'il y a des concours de beauté de chameaux. D'ailleurs, les enjeux financiers, là aussi, sont considérables. Donc, expliquez-nous cette tendance-là, encore une fois, de valoriser la tradition, en l'occurrence.
Je pense que par rapport.
Tradition des tribus.
Par rapport aux chameaux, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mouvements. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui s'inscrit dans la construction de l'identité nationale de ces pays dans les années 1970-1980, là où le Qatar, les Émirats Arabes Unis vont aller puiser dans un passé réimaginé de bédouinité, en fait, tiré de leur passé de tribu bédouine. Donc ça, c'est pour le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ils vont énormément mettre en avant, justement, ce côté de la beauté du chameau, qu'ils vont mettre en exergue à la fois à travers les courses de chameaux qu'ils vont financer grâce à leurs ressources tirées de leurs ressources en hydrocarbures. Et dans le même temps, ça va permettre donc de d'irriguer les périphéries, en fait, d'aller vers les périphéries, les tribus bédouines, les populations bédouines qui, elles, vont perdre de leur importance, de leur centralité dans notamment le commerce caravanier. Donc il va falloir leur donner une nouvelle place au sein du tissu national en formation, parce que ces pays dans les années 70-80 sont en pleine formation après l'obtention de leur indépendance. Mais depuis les années 2000 et 2010, avec le passage du Qatar et notamment le développement du Qatar, de la politique sportive du Qatar, on voit vraiment une volonté de devenir une puissance, une nouvelle puissance sur la scène internationale, notamment par rapport aux populations arabes, en fait. Et se recentrer et de parler aux populations arabes en redonnant une importance aux chameaux, et notamment par la création de fédérations internationales. Et c'est là que ces pays, que ça soit le Qatar et l'Arabie Saoudite, vont se livrer une sorte de guerre autour du chameau pour avoir en fait la centralité sur cette scène du chameau. Donc en fait, il y a le Qatar qui lui va prendre qui va avoir la mainmise en fait sur la fédération arabe de chameau qui est créée en 2002 en Tunisie et qui est aujourd'hui au Koweït. Donc le Qatar a la main sur cette fédération arabe de chameau, et en fait l'Arabie Saoudite, avec l'arrivée de MBS va vouloir donner une nouvelle place aux chameaux, parce qu'en fait les Saouds ne sont pas des bédouins, en fait. Donc eux, ils ont voulu reléguer en fait le chameau dans
oui, comme une image d'un passé.
Voilà. C'était délégué en fait aux tribus bédouines, à des tribus bédouines proches de la royauté, mais ce n'était pas au centre du récit national.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est là aussi il y a des enjeux financiers considérables.
Oui. Bah oui, par exemple, dernièrement, au mois de septembre, il y avait le festival du prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce sont 11,5 millions d'euros qui ont été distribués à travers ces courses. Et en fait, l'Arabie Saoudite souhaite devenir aussi le hub du chameau à l'échelle régionale depuis l'arrivée au pouvoir de Mohamed Ben Salman, qui a donné une nouvelle place dans le récit national au chameau, notamment en créant un club royal du chameau. Et ça, c'est nouveau dans le Royaume saoudien, contrairement au Qatar et aux Émirats arabes unis. C'est là où on voit que l'Arabie saoudite se replace aussi par rapport à ces deux puissances.
Et toujours la rivalité qui est moins vive qu'auparavant, mais toujours la rivalité entre Riyad et Doha.
Et l'Arabie saoudite a créé en 2018 donc une fédération, la Fédération internationale de chameaux, parmi lesquelles il y a comme fédération fondatrice de cette Fédération internationale de chameaux, la Fédération française. Ils ont essayé...
On a des chameaux qui courent sous nos couleurs, si j'ose dire.
Oui, oui. Et notamment, il y a des expatriés françaises à Dubaï qui représentent la France et la Fédération française de chameaux. Mais en fait, s'ils ont essayé d'avoir la France, entre le Qatar et l'Arabie saoudite, ils cherchaient à avoir la Fédération française de chameaux pour essayer de redéfinir ce qu'est l'olympisme et d'intégrer les courses de chameaux à l'olympisme. Et l'Arabie saoudite, c'est son rêve, en fait. Elle rêve d'avoir le chameau comme nouvelle discipline olympique.
En attendant, Raphaël, il y a une autre discipline à laquelle vous vous intéressez et qui est très méconnue en France. En revanche, dès qu'on passe la Manche, nos amis britanniques en sont évidemment friands. C'est le cricket, qui est un immense sport, évidemment, en Inde, au Pakistan, avec entre l'Inde et le Pakistan, d'ailleurs, des enjeux nationalistes à vif. Oui. Chaque fois qu'il y a un match entre deux équipes nationales. Et là, ça concerne aussi les pays arabes.
Oui, parce que en fait, les pays arabes souhaitent construire le sport comme un objet multipolaire. Et donc, ils ne souhaitent. On a parlé du chameau. Là, justement, c'est pour parler aux populations plutôt arabes, pour se recentrer sur la scène arabe régionale. Et en même temps, les pays arabes, et notamment les Émirats arabes unis, ou aujourd'hui l'Arabie saoudite, souhaitent aussi parler au Pakistan, à l'Inde, à l'Asie, en fait.
Et ils ont une main d'œuvre, très importante. Très importante.
Oui, les pays du Golfe, en fait, sont des pays de cricket. Ce sont des pays de football parce que, pour les minorités nationale. Le football a été construit comme le sport national pour justement ne pas être envahi par la culture indienne. En fait, il y a vraiment cette volonté de ne pas être submergé par la culture indienne. Il faut bien voir aussi que dans toutes les familles du Golfe, dans de nombreuses familles du Golfe, il y a des conducteurs indiens ou pakistanais dans chaque famille, ou aussi des nannies qui vont gérer les enfants. Donc les enfants maîtrisent aussi bien les langues sud-asiatiques. Mmh. Et ça, c'est vraiment un problème que connaissent en fait les familles régnantes du Golfe. Et ils ne souhaitent pas du tout, les pouvoirs du Golfe ne souhaitent pas du tout apparaître comme envahis par cette culture. Et donc, les jeunes golfiens ne peuvent pas faire de cricket. Mais par contre, le reste de la population, le vendredi ou le samedi, l'ensemble des friches urbaines sont envahies par des joueurs de cricket. Et donc, c'est un grand marché à gagner pour les milliardaires indiens qui eux voient ou pakistanais qui eux voient d'un très bon œil le fait d'aller organiser des compétitions notamment aux Émirats arabes unis qui est la grande place du cricket et notamment la Fédération internationale de cricket est aujourd'hui siège aujourd'hui à Dubaï notamment pour des raisons fiscales.
Oui, on imagine, parce que évidemment, c'est toujours une dimension à prendre en compte. Le Pierre Rondeau, il y a une grande puissance dans cette fresque que nos amis décrivent. Il y a une grande puissance dont on n'a pas encore parlé, c'est la Chine. Et bizarrement, on a l'impression que la Chine reste plutôt à l'écart de cette ébullition sportive et financière autour de quelques sports principaux.
Alors dans cette ébullition sportive, oui, effectivement, si on parle de football, ça reste un nain footballistique, un nain sportif.
Et pourquoi ?
Alors pourquoi ? Parce que déjà premier élément, c'est pas un sport populaire, très populaire en Chine. C'est vrai que les Chinois, ça a été rappelé par Lucas en 2008, la Chine a remporté le trophée olympique, en tout cas a terminé première nation au terme des médailles olympiques, et brille dans un certain nombre de sports, surtout individuels, mais dans un très grand nombre de sports olympiques. Et il y a eu cette volonté, cette velléité politique de pouvoir développer un très grand nombre de sports et pour maximiser les chances de pouvoir remporter le plus de médailles possible. Et d'afficher comme étant la première nation au tableau des médailles olympiques, au risque de reléguer quelque peu le football au second rang. Et de fait, la Chine, les Chinois pratiquent peu le football, s'approprient peu le football, sont en concurrence directe, hein, élément paradoxal, sont en concurrence directe avec le championnat anglais, la Premier League, qui étant diffusé l'après-midi en Europe, se retrouve en prime time en Asie dès les années 90. Ce qui fait que les Chinois, quand ils ont commencé à s'intéresser au football, ils l'ont découvert via la Premier League, via l'Angleterre, et donc on peut développer le championnat, ou en tout cas on peut développer la pratique le supporterisme vis-à-vis d'équipes chinoises. Vous avez aussi, alors malgré un certain nombre de velléités politiques de développer le football, dans les années 2010, notamment son président, qui est supporter de Manchester City, qui a voulu faire de la Chine une grande nation sportive, qui avait l'espérance de pouvoir dépasser la 90e place mondiale au classement FIFA, de pouvoir un jour organiser une Coupe du Monde de football, qui avait demandé à ce que beaucoup d'argent soit mis dans le développement du championnat et dans le développement des centres de formation, notamment via un certain nombre d'entreprises chinoises, notamment dans le domaine de l'immobilier. Beaucoup de choses avaient été faites à ce niveau-là.
Ces entreprises comme Evergrande, par exemple,
se sont toutes cassées la figure. Donc, de fait, ça ne marchait pas, ce n'était pas populaire, et qu'en plus, l'argent qui était mis en place pour le développement économique du football professionnel en Chine n'était plus là parce que, vous l'avez rappelé, voilà, les sociétés ont fait faillite. Donc la Chine a quelque peu abandonné ce projet de développement du football, malgré, je le précise, un élément important, ils ont quand même mis en place plus de 20 000 centres de formation dans un pays d'1,6 milliard de personnes. Statistiquement...
Donc à terme, il y aura quand même...
Statistiquement, c'est possible. Statistiquement, ils sont 1,6 milliard, il y a 20 000 centres de formation à travers le pays. Il est probable que le nouveau Messi, le nouveau Cristiano Ronaldo viennent de Chine, parce que en termes de nombre, en termes de chiffres, il y a plus de chances qu'il émerge de Chine que de Belgique ou du Luxembourg. Maintenant, c'est peu populaire, ils sont en concurrence avec les Britanniques, et il y a moins d'argent, et en plus, le gouvernement met tout sur tous les sports olympiques au risque de reléguer le football au second rang.
Carole Gomez, je retourne vers vous. Vous êtes à Lausanne, je le rappelle. Il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée et sur laquelle vous travaillez en particulier, qui est la féminisation du sport en général et de quelques sports de masse en particulier. Et on a l'impression, en tout cas ici en France, que voilà, il y a un appétit à la fois du public, mais aussi un début d'appétit financier pour des équipes féminines dans quelques sports, comme sont toujours les mêmes sports, hein, en l'occurrence le foot bien sûr, mais aussi le rugby.
Oui, effectivement, ça me permet de rebondir sur ce que vient de dire Pierre, pour rappeler que si effectivement la pratique masculine du football en Chine ne donne pas forcément des résultats en termes de classement de l'équipe, qui est 93e en classement FIFA, l'équipe féminine est quant à elle bien classée, en étant 16e, et en ayant par ailleurs accueilli une Coupe du Monde féminine de football en 2007, montrant aussi que la Chine voulait investir sur ce sujet, alors que d'autres pays étaient plus réticents. Vous l'avez dit, il y a... et ça a été dit notamment par Lucas, le sport moderne est un sport qui a été construit par les hommes, pour les hommes, et donc il a fallu se défaire au cours des 150 ans qui nous séparent de cette création, de freins structurels et culturels. Pour revenir sur la question que vous posiez notamment sur les principaux sports, un exemple me semble assez intéressant à signaler, ce qui est celui de la FIFA et celui du football. Si la Fédération internationale a été créée en 1904, que la première compétition masculine a été créée, a eu lieu en 1930. La première compétition féminine, Coupe du Monde, quant à elle, est intervenue en 1991. Et ce qui montre bien le retard, le décalage très important qu'il y a pu avoir. Cela s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il y avait tout simplement cette pratique était interdite. Ça a été le cas en Angleterre. Pendant 40 ans, cette pratique féminine a été interdite. Ça a été aussi le cas en France. Par exemple, le régime de Vichy avait interdit la pratique féminine du football qui était considérée comme non éthique et qui ne convenait pas aux valeurs censées représenter les femmes françaises. Et il y avait eu aussi très peu d'appétence, et c'est un euphémisme que de dire ça, de la part des instances internationales et de la FIFA, de se lancer sur ce sujet. Et
mais ça a changé, ça a changé là. Oui, maintenant, c'est presque l'inverse.
Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est l'inverse. En revanche, il y a un engouement qui s'est déclenché, une marche en avant qui a été déclenchée, ce qui était plus que bienvenu. Et si je reste dans le domaine de la FIFA, il est intéressant de noter que c'est en 2018 qu'une accélération importante a eu lieu avec la publication de la première stratégie globale pour le développement du football féminin. Donc 2018, il a quand même fallu attendre un peu de temps pour l'avoir depuis la fondation en 1904, mais qui montre aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, à la fois sur le terrain, donc avec le nombre de pratiquantes qui sont, où il y a des sections féminines, il y a des clubs féminins qui se structurent, souvent difficilement, mais qui se structurent, mais aussi en termes de gouvernance. Et c'est ça aussi qui est intéressant, de voir comment est-ce que désormais les structures, les clubs, ligues, fédérations sont mieux structurées, pensent la question de la pratique féminine et aussi sont gouvernées aussi par des femmes. Et je vous ai fait un petit... juste avant l'émission, j'ai regardé quels étaient le nombre de présidentes de fédérations internationales. S'il y en a 44 reconnues aujourd'hui par le CIO, il y en a 5 qui sont dirigées par les femmes.
Donc, et il y a évidemment la présidente, enfin pour la première fois, une femme qui préside le Comité international olympique, qui est elle-même une championne olympique de natation, Zimbabwe, donc Kirsty Coventry, Lucas en parlait tout à l'heure, et donc ça symbolise évidemment cette nouvelle étape, en quelque sorte.
Oui, effectivement, et le CIO, vous avez raison de le mentionner, en sachant que le CIO, depuis 1996, insiste sur la question de la féminisation. Pendant très longtemps, les femmes n'étaient pas admises ou elles étaient interdites de compétition dans encore certaines disciplines des Jeux Olympiques. Rappelons par exemple que les femmes ne pouvaient pas concourir en compétition de boxe jusqu'aux Jeux de 2012 de Londres. Donc c'était hier. Et donc il y avait aussi un certain nombre d'interdictions qui étaient présentes. Et vous avez raison de le signaler, Kirsty Coventry, 11e présidente du CIO, première présidente femme de cette instance créée en 1896 et qui est aussi une représentation, une image assez intéressante, même si il faut deux choses. D'une part, souligner son expertise, évidemment en tant qu'olympienne, mais aussi parce qu'elle est habituée des instances olympiques. Elle était au sein du CIO depuis 2012.
Et elle a réussi à se faire élire, donc ça veut dire que la dame est
amie. Elle a réussi à se faire élire, exactement, notamment contre des pointures du mouvement olympique. On peut notamment penser à l'anglais Sébastien Coe, président de la Fédération d'athlétisme.
Oui, qui avait organisé les Jeux olympiques de Londres.
Exactement, de Londres, oui. En 2012. Et contre le fils de Juan Antonio Samaranch, le bien nommé Juan Antonio Samaranch Junior, qui lui aussi est un habitué du Concile olympique. Et le deuxième point qui me semble important à signaler, c'est aussi le fait que il sera important de juger cette présidente sur ses actions, notamment avec les prochains événements sportifs de Milan et de Los Angeles.
Pierre Rondeau, il y a un continent entier, évidemment, c'est l'Afrique, où il y a partout maintenant. On a vu que le Rwanda a organisé là aussi, soft power, le Rwanda, petit pays, mais avec une volonté d'afficher son existence tout à fait réelle. Donc là, c'était du cyclisme.
Les championnats du monde. Exact.
Voilà, on voit le Maroc qui construit un immense stade pour organiser la Coupe du Monde de foot 2030 avec l'Espagne et le Portugal, c'est intéressant.
Et
cette
l'Argentine,
idée.
Le Paraguay et l'Uruguay.
En plus, bon là, géographiquement, oui. Ça devient un peu plus compliqué. Et on voit évidemment les passions africaines quand il y a la Coupe d'Afrique du foot.
Alors, ils sont
là, le nationalisme est vraiment...
On est sur une passion, on est sur une ferveur, on est sur un intérêt pour le sport qui se regarde plus que pour le sport qui se pratique. Mais malgré tout, ça reste une petite économie comparativement au reste du monde. À titre de comparaison et d'exemple, le sport mondial, le chiffre d'affaires mondial du sport, c'est 2% du PIB mondial. En Afrique, c'est 1% de son PIB. Donc on est deux fois moins, c'est deux fois moins pour l'économie du sport africain. Donc ça reste un nain par rapport au reste du monde.
Et toujours un gisement de joueurs pour les grands clubs européens.
C'est un immense potentiel.
Ouais.
Un nain économique, mais un immense potentiel en devenir, d'où le pari sur l'Afrique, d'où le Rwanda, d'où des pays qui deviennent, qui maintenant affichent leur nom. On pense au Congo, par exemple, qui aussi met en avant du nation branding et du sponsoring d'équipes pour le tourisme international. Le Sénégal aussi le met en place. Donc il y a des velléités, il y a des ambitions de soft power africain et de parier sur le sport pour améliorer leur réputation et leur renommée. Et il y a un véritable potentiel de développement économique pour atteindre les 2% du PIB mondial, comme l'est aujourd'hui le sport international.
Lucas Aubin, ce n'est pas vraiment une conclusion, même provisoire, par rapport à cette discussion, mais je crois que c'est Carole qui a fait brièvement allusion tout à l'heure. L'e-sport, est-ce que c'est un sport ? Est-ce que il faut désormais considérer que ça fait partie de la panoplie à la fois des investissements, des enjeux pour les joueurs aussi, d'ailleurs.
C'est un vaste débat, mais le sport évolue effectivement. Il faut se rappeler que dans les années 90, les échecs officiellement sont devenus un sport. Aujourd'hui, les joueurs de e-sport professionnels ont des entraîneurs, ont un rythme d'entraînement ultra soutenu. En plus de ça, le jeu vidéo évolue très vite, donc il faut vraiment s'entraîner très très régulièrement pour rester au top, sous peine de se faire dépasser par la nouvelle génération qui vient et qui est toujours.
Mais il y a aussi des jeux de dopés, si j'ai bien compris.
Bien
enfin,
oui.
Je veux dire, ça devient une forme de délire aussi.
Tout à fait.
Le gendre de Donald Trump qui organise prochainement Las Vegas les Jeux Olympiques dopés.
Voilà, oui, on n'arrête pas le progrès en quelque sorte.
C'est-à-dire que le sport, c'est un fait social total, ça touche tout le monde et ça évolue, comme n'importe quel fait social en réalité. Donc je crois que le e-sport, finalement, c'est la suite assez logique de la mondialisation, de la numérisation du monde, digitalisation du monde. Donc je pense que, évidemment, on ne peut pas trancher sur est-ce que c'est un sport ou non, c'est un vaste débat et ça va encore
faire
jaser, on n'a plus le temps en plus. Mais je pense qu'il faut garder en tête que voilà, tout se transforme et qu'en fait, il faut aussi évoluer avec son temps.
Eh bien, merci à vous quatre. Carole Gomez, je rappelle qu'en avril dernier, vous avez publié sur le site de l'IRIS un entretien sur sur notre sujet de ce matin, le rôle des athlètes dans la géopolitique du sport. Lucas Aubin, vous avez coécrit avec Jean-Baptiste Guégan Géopolitique du sport, c'est sorti en 2024 aux éditions La Découverte. Pierre Rondeau, aux éditions de l'Aube et de la Fondation Jean Jaurès, fin de partie pour le foot, point d'interrogation, heureusement que vous avez mis un point d'interrogation. Et Raphaël Lemago-Ariec, vous avez publié un papier en janvier dernier dans la revue Hérodote, une excellente revue sur la mer Rouge, point névralgique du sport golfien. À la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud, à la technique, Éric Perruchot-Triboulet. Théa Corler m'a aidé à préparer cette émission avec la documentation de Radio France. Et nous sommes samedi, voici les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.